Ok. Alors, je me présente, donc Séverine Cacpo. Je suis donc maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Donc, j'appartiens au laboratoire ESCOL. Peut-être juste préciser aussi que j'ai été enseignante de français, hein, je suis certifiée. Et avant de, enfin, ou quasiment en engageant ma thèse, en fait, j'ai enseigné quelques années, donc dans des collèges de ZEB, de l'Académie de Créteil. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai été amenée à m'intéresser aux pratiques familiales d'accompagnement du travail scolaire en milieu populaire. Donc, je précise que ce travail a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui est sorti aux presses universitaires de France au mois de septembre et qui s'intitule donc Les devoirs à la maison, mobilisation et désorientation des familles populaires. Donc, je précise que cet ouvrage et puis ce que je vais dire un petit peu aujourd'hui donc s'appuie sur l'enquête ethnographique que j'ai conduite, pardon, donc ethnographique au sens où j'ai procédé à des entretiens avec les familles que j'ai rencontrées, et ethnographique au sens où j'ai pu aussi réaliser quelques observations de séances d'aide aux devoirs à la maison, devoirs prescrits par l'école ou prescrits par les parents. Donc cette enquête, elle a été conduite dans la proche banlieue parisienne, et elle m'a amenée à rencontrer des familles. Donc 20 familles dont les enfants sont scolarisés à la charnière entre la fin de l'école primaire et le début du collège. Ces familles, je précise, et ces précisions sont importantes, elles sont dotées donc, elles n'appartiennent pas aux fractions les plus vulnérables, les plus précarisées des familles populaires. Elles sont dotées d'une relative stabilité conjugale, résidentielle, économique, qui favorise les investissements scolaires dont je vais parler aujourd'hui. Elles ont notamment été rencontrées au sein des établissements scolaires, alors qu'elles faisaient la queue enfin, devant les salles, patientant dans la perspective de récupérer le bulletin trimestriel de leurs enfants. Même si elles se plaisent à s'imaginer comme telles, les familles de mon enquête ne constituent pas une petite aristocratie ouvrière, ne constituent pas une sorte d'élite. Elles sont en fait, alors je dis qu'elles s'aiment à s'imaginer comme telles parce qu'elles sont très enclines à pointer les autres familles du quartier, hein, en disant que bon, ben voilà, nous on n'est pas comme ça, etc. On se distingue. En fait, elles sont à l'image d'un très grand nombre de familles populaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de familles ouvrières, d'employés plus ou moins qualifiés, souvent issus de l'immigration, mais en situation régulière, vivant en cité, scolarisant leurs enfants dans les établissements dits difficiles des quartiers populaires. Donc mon propos sera articulé en deux points essentiellement. Je vais d'abord rendre compte, alors à l'appui à la fois de mon enquête et puis aussi à l'appui des données qui sont fournies par l'INSEE, je vais essayer de rendre compte donc, de l'intense mobilisation parentale qui est à l'œuvre autour du travail scolaire, et notamment autour des devoirs en milieu populaire. Et puis, dans un deuxième temps, je vais m'attacher à montrer que cette mobilisation ne s'effectue pas nécessairement de manière conforme à ce qui est en fait attendu par l'école, par les enseignants. Donc, je vais essayer de montrer les dissonances qui sont à l'œuvre et que j'ai pu observer ou reconstruire entre logique familiale et logique scolaire. Donc j'aborde le premier point de cet exposé. Donc des familles populaires mobilisées, fortement mobilisées autour des enjeux scolaires. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une montée historiquement inédite de la préoccupation scolaire chez les familles françaises en général. Montée de la préoccupation scolaire, il faudrait sans doute, pour employer un terme mieux adapté, il faudrait parler d'angoisse scolaire. Hein, je lisais un article dans Libération hier qui rendait compte d'un récent rapport du Centre d'analyse stratégique sur le soutien scolaire, hein, et qui rappelle, ce rapport rappelle que la France est le premier marché du soutien scolaire privé dans l'Union européenne. avec un volume d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2011. Donc on a là, à titre d'exemple, une manifestation de ce qui est un véritable marché de l'angoisse scolaire. Pourtant, à en croire ou à entendre le discours des enseignants, notamment de ceux qui exercent en ZEP ou des autres acteurs du monde éducatif, les familles populaires resteraient relativement en marge de ce phénomène de société, hein, de cette montée de la préoccupation scolaire. Alors, il est clair, et de nombreux travaux de recherche l'ont souligné, les travaux de Pierre Perrier, de Daniel Tain également, mais on peut aussi citer ceux de Lahire, il est clair que la thèse du désistement scolaire ou de la démission éducative des familles des catégories populaires, elle reste aujourd'hui au cœur de la conviction de bon nombre d'enseignants, notamment de ceux exerçant en ZEP, enseignants qui associent volontiers les difficultés que rencontrent les élèves à leur milieu familial, et notamment au manque d'implication des parents dans le suivi de la scolarité. Alors, dans une enquête conduite en 1998 et qui est rapportée par Pierre Perrier dans son ouvrage « École et familles populaires », donc d'après cette enquête, 75% des enseignants exerçant en ZEP donc associent les difficultés scolaires au milieu familial des élèves, et un quart de ces enseignants font expressément référence à une démission éducative des familles pour expliquer ces difficultés. Donc, j'ai pu moi-même, en tant qu'enseignante, mais aussi en tant qu'enquêtrice sur le terrain, faire l'expérience de ces représentations très prégnantes, puisque, quand j'ai commencé l'enquête, j'imaginais solliciter mon réseau de collègues, CPE, puisque j'avais été thésédaire, donc j'avais pas mal circulé dans les établissements de l'académie. Donc j'avais imaginé solliciter ces collègues pour rencontrer des familles. Et quand j'expliquais donc mon sujet de thèse, voilà, travailler sur les pratiques familiales d'accompagnement des devoirs en milieu populaire, et quand je demandais à ce qu'on mette éventuellement en relation avec des familles qui encadrent et qui aident aux devoirs, on me conseillait de changer de sujet, en fait, tout simplement parce que les familles auxquelles je voulais m'intéresser ne seraient pas, n'existeraient pas, seraient une réalité marginale. Et on me conseillait plutôt de travailler sur les raisons qui font que les familles ne s'impliquent pas, n'encadrent pas, etc. Donc, je passe sur cet exemple, mais je crois qu'il est relativement significatif. Je préciserai juste que les familles qu'on a bien voulu me faire rencontrer, le plus souvent, en fait, n'étaient pas les familles que je voulais rencontrer. On me présentait souvent les parents d'un excellent élève de l'établissement, parents issus d'immigration qui ne parlaient pas le français, qui n'écrivaient pas le français, ne pouvaient pas aider, mais encadraient bien l'enfant, le soutenaient moralement. Souvent, c'est ce type de famille qu'on me présentait. Hein. Je crois qu'il y a là quelque chose qui... il y a là une espèce de fiction qu'on voulait quelque part me donner à voir, hein, de ce système des devoirs qui fonctionne très bien, de ce système éducatif qui fonctionne très bien dès lors que les parents soutiennent les enfants, se tiennent à distance des devoirs, et tout ça fonctionne très bien. Cette thèse du désistement scolaire, de la démission éducative familiale, elle est utile à l'institution. De nombreux sociologues l'ont souligné parce que elle permet de désigner un certain nombre, enfin voilà, de désigner des responsables, et parce qu'elle permet de continuer à voir l'école comme une institution, comme une instance, donc qui enregistre, là je cite Daniel Tain, hein, qui enregistre, qui récupère, qui subit des difficultés qui sont engendrées en dehors d'elle-même, mais qu'elle ne contribue pas à produire. Donc cette thèse, elle est utile, mais elle est en profond décalage avec la réalité sociale du rapport que les familles populaires entretiennent aujourd'hui avec l'école. Alors, je prends quand même une précaution pour que ce que je dis soit aussi entendu, parce qu'il ne s'agit pas de nier Mon propos donc n'est pas de nier qu'il puisse exister des familles ou certaines familles où effectivement on puisse se désintéresser, encore qu'il faudrait interroger ce terme, de la scolarité des enfants. Hein, mais mon propos est de dire qu'il s'agit d'une réalité profondément marginale et qu'il convient de raisonner à partir du cas général et de ne pas focaliser exclusivement l'attention sur ces familles. Donc on sait que depuis les années 60, c'est dans les années 60 que s'amorce la grande mutation du rapport à l'école des milieux populaires. Donc les familles populaires étaient traditionnellement moins concernées ou moins impliquées que les familles des autres groupes sociaux, parce que ça c'est Terrail qui le souligne, parce qu'elles étaient traditionnellement moins dépendantes de l'école pour permettre à leurs enfants de s'insérer professionnellement, socialement, et puis parce qu'aussi l'école leur offrait beaucoup moins de perspectives qu'elle ne leur offre aujourd'hui. L'accès au collège, qui s'est généralisé donc tout au long des années 60, a très vite été compris par les familles de milieux populaires comme un moyen inédit, historiquement inédit, de s'affranchir des contraintes des métiers d'exécution et comme une possibilité d'accéder à une certaine maîtrise des destins, individuels. Donc entre 63 et 72, le souhait que les enfants obtiennent au moins un bac passe dans les familles ouvrières de 15 à plus de 60%. Donc entre 63 et 72. Les parents déclaraient jusque-là que leurs enfants accompliraient un parcours s'ils étaient capables de le faire. Hein. Ils soulignent de plus en plus volontiers hein, maintenant qu'il importe qu'ils choisissent leurs études et leur destin professionnel et qu'ils se donnent les moyens d'y parvenir en obtenant les meilleurs résultats scolaires possibles. À partir des années 80, avec l'essor du chômage de masse, cette évolution elle est allée bien évidemment en s'accentuant. L'impératif de la réussite scolaire s'est imposé dans les représentations des familles des catégories populaires, très fortement. Au point qu'il n'y a plus guère de différence vraiment significative aujourd'hui, statistique, entre les cadres et les ouvriers dans les ambitions d'accès à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la quasi-totalité des familles ouvrières souhaitent que leurs enfants sortent du système scolaire avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Les familles ont aujourd'hui parfaitement intégré le fait qu'une sortie précoce du système éducatif, sans diplôme et sans qualification, expose leurs enfants à tous les risques sociaux, le risque de la précarité, du chômage, de l'exclusion sociale. Elles ont profondément intégré ce lien très fort qui existe entre cette corrélation très forte qui existe entre niveau de qualification des individus et position sociale des individus dans la hiérarchie des positions. Alors, je vous lis comme ça l'extrait d'un entretien, les propos tenus par un des pères de mon enquête, et qui illustre cette préoccupation. Donc, une fois, je ramenais Ilham en primaire, donc il parle de sa fille, hein, à l'école, sur la route, je parlais, et puis je me rappelle, j'allais partir au travail, et puis ça se passait pas bien, et je touchais pas à grand chose, et tout. Et puis, je sais pas, sur un coup de colère, j'ai dit à Ilham, t'as vu Ilham, je suis pas bien là parce que tu vois, j'ai mal travaillé à l'école. J'ai pas des bons diplômes, j'ai pas un bon salaire. Je rame, on galère et tout. Faut pas que ça t'arrive, t'as vu Ilham. Si tu veux te faire plaisir plus tard, pouvoir voyager, faire ce que tu veux un peu et tout, eh bien, il faut que tu travailles pour avoir un bon travail et un bon salaire et puis c'est tout. Bon, voilà une petite illustration de ce qu'entendent à longueur de journée, hein, ou à longueur de soirée, parce que souvent ils sont à l'école la journée, mais les enfants au sein des quartiers populaires. Donc l'impératif de réussite scolaire, donc, il s'est imposé dans les représentations des familles et se traduit à travers des aspirations, des ambitions scolaires élevées. Mais cet impératif s'est imposé aussi, s'impose, tend à s'imposer dans les pratiques. car les familles ne font pas qu'espérer cette réussite, elles tentent de se mobiliser pour pouvoir favoriser la carrière scolaire de leurs enfants ou tenter du moins de leur éviter les voies de relégation quand leurs enfants sont en difficulté. Donc la question du travail hors la classe des élèves, elle constitue une voie d'étude pour la recherche, elle constitue cette question une voie d'étude privilégiée de la mobilisation scolaire des familles populaires. Pourquoi ? Parce que contrairement au choix d'orientation, au choix d'établissement notamment, qui suppose de bien maîtriser les arcanes du système éducatif, et puis c'est des choix aussi qui sont contraints par l'offre scolaire locale, et puis aussi par les résultats scolaires des enfants. On ne peut pas prétendre intégrer tel établissement de centre-ville hors de son secteur si l'enfant n'a pas des bons résultats scolaires. Bon. Donc, contrairement donc, à ces choix d'établissement, ces choix d'orientation, le suivi des devoirs, pardon, excusez-moi, constitue un moyen de contrôle qui est relativement accessible pour les familles des catégories populaires, dès lors qu'elles maîtrisent le français écrit. Hein, et c'est le cas aujourd'hui de la grande majorité des familles des catégories populaires. Et donc, c'est une voie d'investissement privilégiée des familles, le travail à la maison. C'est une mobilisation donc, qui avait été jusqu'ici relativement peu étudiée, ou alors dans des dimensions qui, selon moi, ne permettent pas de rendre suffisamment compte de l'intensité et des transformations de cette mobilisation. Donc je vais essayer un petit peu de détailler. Pendant longtemps, en fait, la bonne volonté scolaire, l'inquiétude scolaire des familles populaires s'est accommodée d'un rapport relativement confiant à l'institution et d'un respect de la division éducative du travail entre famille et enseignants, hein, qui déléguait à l'enseignant tout ce qui concernait les apprentissages. L'expérience réitérée du manque d'efficacité, sans doute, de ce soutien familial qui se maintenait à distance des apprentissages, a sans doute fini par convaincre les familles qu'il fallait franchir un pas supplémentaire. Donc l'enquête que j'ai conduite montre qu'une large partie des familles populaires est désormais vraiment sortie de l'attitude soucieuse mais délégataire qui a longtemps prévalu et qui a longtemps marqué leur relation à l'école. L'attitude des parents, donc cette attitude première des parents à l'égard de l'école, hein, à l'épreuve des désillusions majoritairement qui ont été subies pendant plusieurs décennies, hein, a conduit à faire évoluer ce comportement en un comportement d'appropriation active des contenus d'apprentissage. Donc à l'image des classes moyennes, les familles concernées, hein, intensifient l'accompagnement du travail à la maison, transforment leur foyer en ce que j'ai appelé dans l'ouvrage une sorte d'institution de sous-traitance pédagogique. Alors, on sait, grâce aux travaux de l'INSEE, que jusqu'à l'entrée en sixième, hein, la proportion des mères, donc je dis des mères parce que ce sont elles qui sont plus souvent investies autour de ces questions de devoirs à la maison, donc la proportion des mères qui aident leurs enfants au moment des devoirs, elle est considérable, en tout cas jusqu'en primaire, elle est de 95%, et on sait que celle-ci ne varie quasiment pas selon le milieu social. Donc on voit bien ici qu'on est loin d'une démission éducative des familles des catégories populaires. À ce stade, ce sont d'ailleurs, nous dit l'INSEE, les mères les moins diplômées qui consacrent le plus de temps aux devoirs. De mémoire, une mère qui est bachelière consacre 13 heures par mois, contre 15 heures si elle n'est pas bachelière à son enfant qui est scolarisé à l'école primaire. Évidemment, les familles donc aident aux devoirs, ça signifie qu'elles ne se contentent pas de soutenir moralement ou d'assurer les bonnes conditions matérielles pour ces moments de travail. Ça signifie qu'elles mettent la main à la pâte des apprentissages, qu'elles fournissent du soutien scolaire à la maison, s'engagent dans la réexplication des leçons quand elles n'ont pas été comprises, tentent de vérifier, de valider le travail, le but étant que les devoirs retournent à l'école le plus juste possible. Donc on voit bien ici qu'elles sont bien au-delà des réquisits formels de l'institution qui demanderaient de se maintenir à distance des devoirs et de simplement soutenir les enfants. Hein. Elles outrepassent largement ça. On le sait notamment parce que les travaux de l'INSEE nous disent qu'elles ont assez précocement le sentiment de manquer de compétences pour aider leurs enfants. Mais elle persévère. Et l'enquête de l'INSEE est longitudinale, elle étudie la décennie 90-2000, et elle montre que les familles, mais d'ailleurs l'ensemble des familles, persévèrent davantage, c'est-à-dire décrochent plus tardivement, suivent plus tardivement la scolarité de leurs enfants. Donc, évidemment, il y a un décrochage parental qui s'amorce pour les familles des catégories populaires, les familles les moins diplômées, à partir de l'entrée au collège. Ce qui montre bien évidemment que si elle décroche, ce n'est pas en raison d'un désintérêt soudain pour les questions scolaires, mais bien en raison de la nature de l'aide apportée qui les contraint donc à mettre la main à la pâte des apprentissages, comme je le dis. Et effectivement, il y a quand même un saut qualitatif avec l'entrée au collège, et une partie des familles à ce moment-là connaît des difficultés pour suivre le travail, hein. Mais elle persévère aussi, elle tente de persévérer le plus possible. Ce qui dit quand même beaucoup de choses de cette pression scolaire qui habite aujourd'hui les familles des catégories populaires. Le travail à la maison leur apparaît si déterminant que les parents de mon enquête n'hésitent pas à intervenir auprès des enseignants quand ils jugent que l'école ne joue pas suffisamment son rôle de prescriptrice, de commanditaire, hein, c'est pour ça que je parle d'une sous-traitance. Quand le commanditaire n'envoie plus de commandes, eh bien, l'institution de sous-traitance est en quelque sorte en crise. Hein. Donc on a des démarches, parfois individuelles ou parfois collectives, et puis on a de toute façon, en tout cas pour les familles de mon enquête, un regard très négatif sur les pratiques des enseignants qui ne donnent pas de devoirs ou qui n'en donnent pas assez. Donc l'enquête met en évidence l'attachement viscéral des familles populaires au devoir, l'attachement viscéral qu'elles portent au devoir. Elles envisagent le devoir à la maison comme consubstantiel à la scolarisation. Une mère avec laquelle j'évoque l'interdiction des devoirs écrits en primaire déclare par exemple « Mais pourquoi casser ce rituel ?» Alors ça veut dire que la génération qui va arriver de mes enfants n'aura plus d'école. Hein, donc c'est vraiment cette idée du devoir comme consubstantiel. Et alors qu'on parlait de l'interdiction des devoirs écrits, cette nuance s'est complètement envolée. Et voilà, c'était l'ensemble des devoirs qui semblait menacé, l'ensemble du système scolaire qui semblait menacé par cette interdiction. Bon, les parents, ils sont attachés aux devoirs à la maison parce qu'ils croient déjà en l'efficacité de ce travail. Il faut comprendre aussi qu'au-delà de leur intérêt pédagogique, les devoirs sont pour les parents une fenêtre ouverte sur la classe, un moyen de contrôle de la scolarité de leurs enfants, mais aussi un moyen de porter un regard aussi sur les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre par les enseignants. Ils sont aussi donc un levier d'action, et je pense que l'inquiétude qui s'est exprimée et qui continue de s'exprimer au sujet de l'interdiction réelle entre guillemets des devoirs qui a été abordée là au mois de septembre dans le cadre de la refondation, elle s'exprime aussi beaucoup chez les familles des catégories populaires, parce qu'il y a là la crainte aussi de perdre un moyen de différencier les enfants dans cette compétition scolaire. Les devoirs aussi sont un moyen de communiquer avec les enseignants, de leur envoyer l'image de parents partenaires. En effet, quand on est si attaché à se sentir différent de son voisin, comment montrer qu'on est différent ? Bah, c'est aussi en renvoyant ses devoirs, comme dit une mère, impeccable à l'école, donc pour montrer qu'on est là, qu'on soutient l'enfant. Et puis les devoirs, ils sont aussi un moyen pour les parents de structurer le temps extrascolaire des enfants, non, tu ne vas pas sortir dehors, parce que je m'appuie aussi sur la légitimité de l'école pour te dire que voilà, ce temps-là doit être consacré au travail scolaire, à la valorisation, etc., des valeurs de sérieux, d'ascétisme. En gros, les devoirs contribuent aussi à la structuration de l'ordre moral familial. Donc il y a un très large consensus qui s'observe chez les familles de mon enquête quant à la question des devoirs. Consensus donc qui relève de logiques très, très hétérogènes, mais qui toutes convergent pour rendre indispensable à leurs yeux la circulation, hein, pour que ce flux soit à l'œuvre entre l'école et les familles. Donc voilà, des démarches pour rétablir le flux quand ce flux n'existe pas, ce qui montre bien, encore une fois, cette sortie des logiques délégataires, cette sortie des logiques de remise de soi à l'institution. Non, on réclame aussi ses devoirs. Alors, mais ce qu'il y a sans doute de plus frappant dans l'évolution du rapport à l'école des familles populaires, vu à travers le truchement de cette question des devoirs à la maison, c'est aussi le degré de liberté qui est conquis par rapport aux réquisits formels de l'école. Tout se passe donc comme si les familles avaient compris qu'il ne fallait pas s'en tenir aux demandes explicites des enseignants. Donc, alors, ça veut dire, par exemple, aller demander du travail quand il n'y en a pas. Mais ça veut dire aussi, par exemple, se faire prescripteur de devoirs en plus à la maison. Ça, c'est aussi une des choses, enfin, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas nécessairement à découvrir en allant enquêter dans les familles. Il y a du matériel pédagogique, beaucoup de supports parascolaires, mais aussi des ouvrages, de véritables ouvrages scolaires que les familles se procurent. Tout ça existe au sein des familles des catégories populaires. Ces ouvrages, ces supports s'achètent à Carrefour. Il y a une sorte de démocratisation de l'accès à ces supports. Ils s'achètent même au marché. Une mère m'expliquait qu'elle avait acheté qu'il y a un vendeur de parascolaires, en fait, d'ouvrages parascolaires au marché. Donc les parents prescrivent du travail en plus à leurs enfants. Alors, ce qui est important, c'est qu'aussi une part de cette activité pédagogique autonome que développent les familles, elle témoigne aussi d'une prise de distance critique qui est vraiment historiquement inédite à l'égard de l'institution scolaire et des pratiques pédagogiques de l'institution scolaire. Pour bon nombre des familles de mon enquête, l'école ne fait pas suffisamment son travail, ses exigences sont insuffisantes. Elle serait responsable, l'institution, des difficultés intellectuelles des élèves. Certains parents vont jusqu'à parler d'une... dans leurs propos, on peut voir apparaître le thème d'une sorte de démission scolaire, une démission de l'institution, de ses responsabilités pédagogiques. Démission que certains parents associent à la volonté, en fait, de maintenir à l'écart des diplômes et des positions sociales les plus valorisées les enfants des quartiers populaires. Donc, face à une institution perçue comme pédagogiquement parfois défaillante, certains parents évoquent l'enseignement privé et se tournent parfois vers l'enseignement privé pour d'autres raisons aussi que les conceptions pédagogiques qui seraient à l'œuvre au sein des institutions, mais aussi pour ça, l'enseignement privé est considéré comme mettant en œuvre des pratiques pédagogiques très différentes du public. Et puis on a des parents aussi qui prennent les choses en main et qui n'hésitent pas à prescrire un certain type de travail en plus que j'ai appelé dans l'ouvrage du travail compensatoire. Travail qui vise à remédier aux difficultés d'apprentissage des enfants, mais à des difficultés d'apprentissage qui ne seraient pas imputables à l'enfant lui-même, mais aux défaillances pédagogiques de l'école ou à son insuffisance. Une de mes enquêtées, grande prescriptrice de travail compensatoire, elle dit, quand les enseignants, ce que les enseignants ne font pas, moi, c'est à moi de le faire. Alors, ce qui peut être mis en œuvre dans les familles, c'est, par exemple, prescrire des devoirs quand l'institution n'en prescrit pas. C'est aussi compenser ce que les parents perçoivent comme un retard pris dans l'avancée des programmes lié à la nature du public accueilli dans les classes. Hein, une mère m'explique que bon, elle a vu que par rapport à d'autres élèves scolarisés dans une autre classe, ils en sont déjà là en termes d'apprentissage, je ne sais plus, de la division, etc. Elle considère que dans la classe, il y a beaucoup de perturbateurs qui retardent. Hein, donc, à partir d'un manuel parascolaire, elle va venir travailler ce point qu'elle considère, dont elle juge qu'il aurait dû être déjà traité. Compenser les défaillances pédagogiques de l'école, donner du travail aussi pour compenser les défaillances pédagogiques de l'école. Alors, ça peut être une compensation ponctuelle, ça peut être aussi une compensation plus vaste, plus systématique. Certains parents, dans l'enquête que j'appelle les missionnaires des pédagogies traditionnelles, je reviendrai sur ce terme traditionnel, hein, s'efforcent de reconstruire tout un pan de ce qui serait des apprentissages fondamentaux et non pris en charge par l'école. Donc l'un des constats les plus frappants, hein, de la recherche, sans doute, concerne notamment l'entrée en lecture, par exemple. Hein. Beaucoup des familles de l'enquête ont chez eux des manuels syllabiques et anticipent, font travailler les enfants en lecture parce qu'elles sont convaincues que si elles ne le font pas, leurs enfants s'exposent à des difficultés parce que l'école n'assumerait plus correctement cette fonction de transmission des apprentissages fondamentaux en lecture-écriture. Donc j'ai retrouvé dans ces familles des manuels type Baucher, type Mamadou et Binetta, qui sont donc des manuels de syllabique. Donc, en gros, on a des familles populaires qui ont profondément intégré les enjeux scolaires, qui ne s'inscrivent plus dans une logique de délégation complète et qui, face à la persistance de l'échec scolaire, ne s'inscrivent plus fondamentalement dans un espèce de rapport comme ça, de grande confiance à l'école. Et on a des familles qui, comme en fait, qui à l'image des familles de classe moyenne, s'efforcent de laisser moins de pouvoir à l'institution, ou s'efforcent de se mobiliser, ayant peut-être intégré un espèce de fonctionnement réel et implicite du système, et qui fait qu'aujourd'hui, la réussite se construit beaucoup en dehors de l'école. Donc ces familles, elles ne sont pas en marge de ces questions-là, mais sont au contraire habitées par ces enjeux scolaires et par l'idée que oui, effectivement, il y a sans doute à construire la scolarité à l'extérieur de l'école. Donc les pratiques de suivi des devoirs des familles de mon enquête, j'ai pas trop le temps de le développer ici, mais elles s'inscrivent dans un réseau, on peut dire, ou un ensemble de comportements qui tendent à être des comportements stratégiques. Il y a aussi chez les... on observe, mais ça, c'est pas moi qui le montre, hein, Jacques Barou avait déjà parlé d'extension des stratégies de contournement, de démocratisation des stratégies de contournement des écoles, des établissements. Mais il y a chez ces familles une interrogation sur comment on peut faire éventuellement pour éviter tel établissement. Il y a des informations qui circulent, des familles qui s'efforcent de savoir comment faire entrer l'enfant dans telle classe, qui analysent le système, qui voient que si on prend l'option bilingue européenne, on peut peut-être intégrer la bonne classe, etc. Les familles ne sont pas à l'écart de ces réflexions. De la même manière, il y a une volonté aussi. Ça, j'essaie de le montrer dans l'ouvrage, donc je vous renvoie plutôt à l'ouvrage, je ne vais pas développer, mais j'essaie de montrer à partir du cas de la lecture ou à partir du cas des loisirs. Il y a un effort qui est fourni pour essayer d'orienter les pratiques éducatives quotidiennes dans le sens d'une plus grande conformité aux attentes de l'école. Il y a des modèles éducatifs qui sont profondément travaillés par les normes scolaires. Hein. On ne serait pas dans... Il y a beaucoup ces représentations dans les milieux éducatifs de familles qui vivraient au sein de milieux véhiculant des normes complètement différentes, complètement étrangères à l'école. Je crois qu'il faut le dire, les familles populaires ne sont pas perméables aux logiques pédagogiques qui prédominent dans le monde social et à l'école. Leurs pratiques éducatives sont travaillées par ces normes. Donc, dans l'ouvrage, je donne l'exemple de la lecture. Les parents ont profondément intégré que la lecture est associée à la réussite scolaire. Les enfants, on leur répète, il faut lire, va prendre des bouquins, lis, etc. Alors souvent, les parents eux-mêmes ne sont pas lecteurs, mais ils s'efforcent, ils somment en quelque sorte leurs enfants d'opérer une espèce de conversion socio-culturelle en solitaire. C'est-à-dire que voilà, nous on n'est pas lecteurs, nous, c'est pas notre truc la lecture, mais toi il faut que tu lises, il faut que tu deviennes un lecteur parce que c'est essentiel à ta réussite. Voilà pour ce premier point autour de cette mobilisation scolaire intense et très structurée autour des devoirs à la maison. J'enchaîne sur le deuxième, ou vous voulez réagir? Je continue et puis on échangera peut-être après. Le deuxième point donc, sur lequel je voulais insister et qui renvoie en fait quasiment au deuxième terme du sous-titre de mon ouvrage, la question de la désorientation des familles. Donc le deuxième point, je l'ai intitulé « Dissonance entre logique scolaire et logique familiale ». Donc mon intention est de vous montrer ici que si les familles de mon enquête offrent du point de vue de leur implication tous les gages de conformité aux attendus scolaires, comme je viens de le montrer avec cet attachement au suivi des devoirs, etc., ces prescriptions de travail en plus, il apparaît quand même que de nombreuses dissonances opèrent entre logique familiale et logique scolaire. Alors, ces dissonances qui opèrent au moment des devoirs ou au moment où est prescrit le travail en plus, elles semblent relever de différents registres que je vais essayer de vous présenter. Ces registres ne sont pas exclusifs les uns des autres, bien évidemment, mais peuvent se cumuler. Le registre le plus important, c'est celui de ce que j'ai appelé la désorientation curriculaire des parents. Donc une partie non négligeable des dissonances que j'ai pu observer ou reconstruire est à mettre sur le compte de cette désorientation, de la désappropriation de l'univers de référence curriculaire que les parents mobilisent pour appréhender les devoirs qui sont donnés ou pour en donner en plus. Donc, alors que en fait les attentes, les codes scolaires ont profondément évolué depuis la fin des années 70, c'est principalement à partir du cadre de référence de ce que je peux appeler ici de manière un peu caricaturale les pédagogies traditionnelles que les parents interprètent le travail intellectuel qui est sollicité par l'école. Donc les familles, elles sont très attachées à ces codes pédagogiques qui ont marqué leur expérience scolaire, mais qui correspondent aussi à ce qu'on appelle en sociologie leur ethos de classe, c'est-à-dire des codes qui véhiculent des valeurs auxquelles les familles populaires sont attachées, valeurs de sérieux, valeurs de l'effort, de la conformité. Donc les parents, ils sont attachés à ces valeurs et ils peinent un petit peu à s'orienter dans ce que j'appelle le méandre du curriculum contemporain. Donc j'entends par curriculum, cette expression désigne à la fois les contenus d'enseignement, mais aussi les modalités contemporaines de leur transmission. Alors, le premier type de désorientation dont les parents font l'expérience résulte de leur confrontation avec les nouveaux modes de présentation des savoirs et les nouveaux enjeux d'apprentissage qui leur correspondent. Alors, je vais essayer d'expliquer. En gros, les parents de mon enquête, ils ont été scolarisés globalement au sein d'une école où les savoirs étaient délivrés déjà constitués. Dans ce système, on attendait essentiellement des élèves qu'ils soient capables de mémoriser, restituer des textes légitimes et qu'ils soient capables de reproduire des exercices au genre bien normé. Leurs enfants évoluent au sein d'une institution qui a été profondément transformée par la diffusion des conceptions pédagogique héritée du socioconstructivisme. Là, je vous renvoie aux travaux, notamment d'Escol. Il y a l'ouvrage de Elisabeth Bautier et Patrick Ayou qui est exposé là-bas sur cette question. Donc, se sont diffusées des conceptions et des pratiques radicalement différentes. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est... ce qui compte désormais, c'est moins l'acquisition de savoirs déjà constitués que l'appropriation par les élèves, dans un contexte autonome, des moyens qui servent à créer les connaissances et à établir des principes. Alors, je peux peut-être donner le cas de l'enseignement de l'histoire, hein, comme ça, de manière un peu rapide, mais par exemple... Hein, on vise moins... Enfin, le travail de l'enseignant est moins aujourd'hui de délivrer le récit de l'histoire déjà constitué et donc que les élèves auraient à mémoriser, restituer. Hein. Il s'agit plutôt de mettre en activité les élèves, de les confronter à des documents, à des sources que les élèves sont amenés à confronter, relier, mettre en relation. Voilà, on va retrouver ces conceptions... Enfin, c'est des conceptions qui sont tout à fait transversales aux disciplines. Donc, confronté à un système de gravité dont le centre s'est vraiment déplacé, hein, des savoirs constitués aux savoirs finalement à construire, hein, les parents, ils peinent à s'orienter dans ce nouvel univers curriculaire. Alors, je citerai en exemple les propos de ce père qui est allé chercher le manuel de SVT de son fils. Un manuel très conforme donc à ces nouvelles orientations pédagogiques avec très peu de textes formels, très peu de leçons formelles, mais avec beaucoup de documents permettant cette mise en activité, etc. Il s'est appuyé sur cet ouvrage pour me montrer en quoi aujourd'hui il est difficile d'aider, en quoi il a du mal à se repérer et à aider son fils qui est pourtant en grande difficulté avec cette nouvelle matière au collège. Donc si j'avais eu le temps, je vous aurais préparé un PowerPoint avec quelques images de ce manuel et je l'aurais mis en miroir d'un manuel de SVT, de biologie des années 68 ou de la fin des années 60. Hein, vous auriez vu de manière flagrante ces différences d'orientation pédagogique. Donc ce père explique qu'il n'y a que des images, il n'y a pas trop de texte sur son livre de SVT, à part les formules. Parce qu'ils ont momifié, comment dire, ils ont englobé. Il y a trop d'explications englobées avec un schéma ou une image, c'est tout. Ils ne donnent pas assez d'explications. De toute façon, en général, hein, pour un livre de... Parce que nous, avant, on avait un livre de chimie et de physique et il y avait des explications. C'était bien expliqué. Là, c'est vraiment, ils ont tout englobé ensemble et je ne sais pas comment l'enfant il fait pour comprendre ça. Regarde, que des images, on va dire en général. Donc, persuadés que les enjeux d'apprentissage sont restés inchangés depuis le temps de leur propre scolarité et qu'il s'agit toujours de mémoriser, restituer, beaucoup de parents se demandent en fait à quoi joue l'école, hein, au fond, pourquoi elle ne donne pas à voir les savoirs, pourquoi elle ne les délivre pas de manière déjà constituée, prête à apprendre, et pourquoi elle procède à ce que ce père appelle la momification, hein, on peut voir aussi un embaumement des savoirs. Pourquoi elle cache ce qu'elle s'est toujours efforcée de donner à voir. Et il y a quelque chose que les parents ne s'expliquent pas ou qu'ils s'expliquent en disant simplement, notamment c'est le cas de ce père, que l'école a renoncé à enseigner et que toutes ces images, ça permet aux élèves de ne pas vraiment travailler. Et au fond, voilà, il faudrait reprendre les anciens manuels et c'est ce que font certains parents pour pouvoir renouer avec cette véritable mission de l'école qui est celle de la transmission des savoirs. La deuxième source, un point aussi important, c'est que la désorientation curriculaire des parents par rapport à ce point dont je viens de parler, elle est accentuée par le fait que les parents ne se confrontent pas qu'à du nouveau à l'école, ils se confrontent aussi à de l'ancien. Parce que les nouvelles pédagogies, elles se sont diffusées dans l'école, mais elles se sont plus, ça c'est notamment Stéphane Bonnery qui le dit dans son ouvrage, elles se sont plus agrégées aux pédagogies existantes qu'elles ne les ont remplacées de manière systématique. Donc on a des pratiques pédagogiques qui sont stratifiées, composites, hétérogènes aujourd'hui au sein des classes. Ce qui peut amener à passer à un moment où on est en train de faire découvrir les savoirs aux élèves, à un moment donné où on renoue avec un petit cours magistral qui est dicté. Voilà, il y a cette stratification des pédagogies.
Donc, cette stratification, elle ménage donc de réelles formes de continuité entre l'expérience scolaire des parents et celle des enfants. En effet, donc, il y a de nombreuses tâches, et notamment parce qu'elles sont considérées comme les enseignants comme moins nobles, parce qu'elles ne mobilisent pas trop la réflexion des élèves. Donc, il y a de nombreuses tâches de mémorisation, restitution, qui sont exportées vers les familles, hein, apprentissage de poèmes, apprentissage de listes de vocabulaire, de tableaux de conjugaison, etc. Et c'est les parents investissent de manière vraiment très forte, hein, ces tâches. Et elle joue comme un espèce de, elle joue le jeu d'un espèce de miroir déformant de la réalité pédagogique contemporaine, parce qu'elles peuvent laisser croire aux parents que les codes scolaires d'avant prévalent toujours, alors qu'en fait, oui, ils existent, mais ils ne déterminent pas aujourd'hui, ils ne permettent pas, leur maîtrise ne suffit pas à réussir à l'école. Hein. Aujourd'hui, on est au cœur d'une école qui est très exigeante, qui mobilise les élèves sur des activités très réflexives et très exigeantes. De ce point de vue-là, il faut d'ailleurs battre en brèche le mythe de l'effondrement du niveau scolaire, etc. Je crois qu'il est très important de le faire. Et il suffit d'ouvrir n'importe quel manuel aujourd'hui pour se rendre compte du niveau des exigences littératiques qui sont aujourd'hui celles de l'école. Donc, le deuxième type de désorientation qui est à l'œuvre résulte de la confrontation aussi avec les nouveaux modes d'ordonnancement des savoirs scolaires. Mes enquêtés donc, ont été scolarisés au sein d'une école où les divers domaines de savoir étaient bien délimités, dans un univers où les compétences étaient transmises de manière régulière et hiérarchique, en allant du plus simple vers le plus complexe. Or, les enfants qu'ils accompagnent évoluent au sein d'un système qui est tout autre, où les divers contenus d'enseignement sont souvent décloisonnés, où les savoirs se transmettent selon un ordre moins régulier, moins hiérarchique. Alors, pour aborder ce point-là, on peut prendre deux exemples, deux domaines d'apprentissage qui ont connu vraiment des transformations exemplaires, très très fortes. C'est l'enseignement des premiers apprentissages de la lecture et l'enseignement du français au collège. Alors, je vais essayer d'être rapide, mais concernant l'exemple de la lecture, hein, il est important de noter que les parents ont appris à lire au sein d'un système où le curriculum des premiers apprentissages de la lecture était forcément compartimenté, hein, où les compétences s'acquiraient de manière progressive et de manière rigoureusement hiérarchique. Tout travail précoce sur la compréhension était proscrit. L'entrée dans la lecture se faisait par plusieurs semaines plusieurs semaines de travail exclusivement consacrées au code. Les élèves devaient avoir appris à déchiffrer les mots écrits avant d'être confrontés à des problèmes de compréhension, devaient maîtriser les grands mécanismes de base avant d'accéder à la culture écrite. Donc on a cette avancée très progressive et hiérarchique. Cet ordre, on le retrouvait à petite échelle jusque dans la manière d'aborder le décodage, prédominait une approche synthétique du code, soit une démarche allant des parties vers le tout, c'est-à-dire de la lettre à la syllabe, de la syllabe au mot, du mot à la phrase, de la phrase au texte. Et évidemment, les enfants, ils évoluent au sein d'un système qui a été profondément transformé par les innovations pédagogiques des années 70. Il n'est plus question de cet apprentissage où tout est subordonné à la maîtrise du code. Hein, on confronte les enfants avec la culture écrite le plus tôt possible, etc. On travaille la morphologie, la syntaxe, tout ça de manière concomitante, simultanée. On essaye de travailler ces domaines en lien les uns avec les autres. Donc cet enseignement de la lecture, il est nettement moins hiérarchique, nettement moins cloisonné qu'avant. Et c'est une source de profonde déstabilisation des familles et de nombreux malentendus autour des devoirs de lecture qui sont donnés par les enseignants. Donc pour beaucoup de parents de l'enquête, l'école ne jouerait plus son rôle du point de vue des premiers apprentissages en ce qu'elle n'apprendrait plus à décoder et en ce qu'elle apprendrait à lire par cœur. Donc je vous lis quelques extraits d'une citation. Donc, une mère m'explique qu'il fondu par cœur. Alors elle m'explique ça alors que sa fille est à côté sur la table basse et fait donc son travail de lecture. Ils font du par cœur. Comment ça, du par cœur, je lui demande. Ils apprennent à lire par cœur. Par exemple, là, on va lui montrer un mot, une phrase, elle va la lire. Elle va lire la phrase par cœur, mais si on la met dans un autre cahier et qu'on lui dit « lis », elle ne saura pas la lire. Donc, ce n'est pas par syllabe. « L, A, ça fait la ». Non, c'est la phrase directe, quoi. Et ça sert à quoi de mémoriser, à votre avis? Donc, ça, c'est moi qui lui demande. Je ne sais pas, c'est leur tactique à eux. Ils apprennent à lire par cœur. Ça a été la même chose pour la grande. Moi, franchement, personnellement, j'aime pas leur méthode. Moi, je suis pas d'accord, elle est pas bonne, cette méthode. Et donc, un petit peu plus tard dans l'entretien, sa fille dira, je sais plus si elle le dit à moi ou à sa sœur, elle dit « oui, j'apprends, je lis, je dois apprendre ma phrase par cœur ». Et donc sa sœur lui dira « oui, oui, c'est comme ça qu'on lit, on apprend par cœur ». Et donc la mère n'interviendra pas, puisque de toute façon, elle partage cette conception, voilà. Il se trouve qu'en fait, effectivement, c'était les premières semaines du CP, cette phrase, elle est pas à apprendre par cœur, elle est bien à lire, mais l'enfant a tellement travaillé dessus tout au long de la journée qu'elle la connaît par cœur. Et effectivement, elle n'est pas encore capable de déchiffrer tous les mots parce que ce qui est travaillé, c'est peut-être ce jour-là une syllabe particulière ou une association de syllabes particulières, etc. Si on prend l'enseignement du français au collège, on va retrouver ces phénomènes, des transformations identiques et une déstabilisation aussi des familles. C'est pareil. L'enseignement du français au collège, aujourd'hui, c'est un domaine où les diverses composantes de l'enseignement du français, lecture, écriture, grammaire, orthographe, vocabulaire, ne sont plus abordées de manière compartimentée. Les parents, à travers le suivi des devoirs, les parents qui sont très attachés à cette compartimentation, les parents ne parlent d'ailleurs jamais quasiment du français, ils parlent toujours de la lecture, de l'orthographe, des rédactions, ils sont attachés à cette compartimentation. Ils sont confrontés donc à travers le suivi des devoirs à un tout autre mode d'organisation, donc notamment l'enseignement en séquence, qui s'est imposé depuis les années 90, et qui amène à travailler de manière conjointe tous ces domaines de français. Le plus souvent, on subordonne à une thématique littéraire l'étude de différents... Alors, je donne un exemple. Par exemple, on va travailler en français le portrait. Le thème est le portrait. Donc, on va écrire des portraits. On va lire des portraits et aussi lire des extraits de grandes œuvres. Mais on va travailler aussi en grammaire sur les adjectifs parce que ce point de grammaire prend particulièrement sens dans cette étude du portrait, par exemple. Donc, l'ordre d'acquisition des compétences qui était autrefois très méthodique, progressif, hiérarchique, il ne l'est plus nécessairement. L'étude de la langue, par exemple, un domaine auquel sont très attachés les parents, il va être subordonné à des préoccupations d'ordre thématique et il ne suit plus nécessairement l'ordre propre de la grammaire. Et les parents donc peinent à s'orienter dans cet univers. Un père dit « mais voilà, moi, les livres à mon époque, ils n'étaient pas comme ça, on avait un livre de lecture, on avait un livre de grammaire ». C'était séparé, et maintenant, c'est réuni, ils ont tout mélangé, il n'y a plus d'explications, on comprenait mieux. Une des explications fournies par un des parents, c'est notamment qu'aujourd'hui, on a tout mélangé pour faire des économies budgétaires, parce que ça coûte trop cher de faire ces livres uniques, de faire des livres multiples, et donc on a fait des livres uniques avec plein d'images, et effectivement, il y a cette idée que c'est pas étonnant que nos enfants aient des difficultés, rencontrent des difficultés d'apprentissage. Une partie du travail en plus qui est prescrit par les parents vise à rétablir ces cloisonnements ou en tout cas vise à renouer avec cet enseignement traditionnel. J'ai pu observer par exemple des manuels de grammaire des années début des années 60, fin des années 60, conservés, considérés comme des petits trésors curriculaires ou par les parents. Et à partir desquels, donc, ils prescrivent, et on m'expliquait que ces livres-là étaient bien, ils étaient clairs, ils permettaient aux enfants d'apprendre, et en plus des choses beaucoup plus complexes que ce que les enfants apprennent aujourd'hui. Donc, j'ai observé aussi des séances de grammaire faites à partir de ces manuels qui respectent, alors j'aurais pu aussi vous montrer des extraits, mais qui respectent l'ordre hiérarchique qui est propre à la discipline grammaticale. Alors, un autre aspect de la désorientation curriculaire des parents. Oula, j'ai beaucoup parlé. Il me reste combien de temps, en gros? D'accord, bon, ça, j'essaierai d'être plus courte quand même. La désorientation curriculaire des parents Elle résulte aussi de l'affaiblissement des frontières qui distinguaient autrefois de manière bien nette l'univers du scolaire et l'univers du non scolaire. Donc, les parents ont été eux-mêmes scolarisés au sein d'un univers où prédominait ce que Bernstein appelle la pureté des catégories. Hein. Les enfants évoluent au sein d'un univers scolaire qui n'est peut-être plus... Enfin, je ne sais pas si le terme est bon, qui est moins sacré ou sacralisé. Un univers dont les frontières sont devenues poreuses, qui importe en son sein des objets, des pratiques qui appartiennent à des univers qui ne sont pas des univers scolaires. Et cette recomposition des frontières qui existe toujours entre le scolaire et le non scolaire, mais il y a recomposition, elle perturbe les parents, et notamment la frontière entre, donc là j'emploie les termes d'une mère, mais entre amusement et sérieux. La frontière entre amusement et sérieux. Bon, ça, d'autres travaux l'avaient quand même mis en évidence, notamment à propos des sorties scolaires. Je pense aux travaux notamment de Chauveau et de Eliane Chauveau-Rogovas. Donc certains parents sont particulièrement troublés hein, par le fait que l'école va procéder à des incursions un peu répréhensibles de leur point de vue dans le monde profane, hein, le monde hors l'école. Alors ça renvoie aux sorties scolaires, aux séjours. Donc je vous lis quelques extraits. Adja. Aller au cinéma, je déteste ça. Les cinémas, les dessins animés, aller voir ça pour 3 euros par élève. Alors je lui demande, c'est payant ? C'est payant, c'est pas gratuit. Hein. Chez nous, ils n'ont... Donc là, elle parle de l'école au Mali. Alors l'école au Mali, que cette enquêtée considère, j'ai appelé ça comme ça dans l'ouvrage, un petit Eldorado pédagogique. Hein. Et elle formule même le projet, alors sans fantasmatique certainement, mais de retourner au Mali pour permettre à ses enfants d'être scolarisés au sein d'une école qu'elle juge efficace. Elle dit là-bas, il y a 100% de réussite. Bon, c'est une reconstruction, bien sûr. Il y a chez cette enquêtée le rêve d'une rétro-migration pédagogique. Et c'est quand même très fort d'entendre ça. Ça dit quand même beaucoup de choses de cette défiance que je pointe dans le travail. Donc elle dit, chez nous, ils n'ont pas ces sorties, ces choses-là. Ils sont tout le temps sur le travail, ils bossent vraiment. Il n'y a pas d'atelier, de sorties, de télé, machin, etc. Donc on voit ici, ces sorties au cinéma sont associées à la télé, au divertissement. Pareil sur les sorties à la ferme, hein. Sortie organisée, donc ça devait être une classe transplantée ou quelque chose comme ça, bah aller à la ferme, leur salir. Alors je lui dis, ah, il y a des séjours à la ferme ? Oui, oui, une semaine. Alors je lui dis, oui, mais à la ferme, à ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre d'utile pour la scolarité ? Je vois rien. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à la ferme ? Aller voir les cochons, les machins, il n'y a rien à apprendre. Tout ça, ça sert à rien de les apprendre à faire le jardinage. Bon, ça, c'est pas nécessairement nouveau, mais ce que je montre aussi dans l'enquête, c'est que ils sont aussi déstabilisés non seulement par ces incursions en milieu profane, mais aussi par le fait que l'école importe au cœur des situations scolaires les plus légitimes, enfin voilà, au cœur de la classe, qu'elles importent des objets propres à l'univers des loisirs. Donc, pareil, on feuillette le manuel de français de 6e de sa fille. Et on tombe sur un passage qui doit amener les élèves à travailler sur une affiche de film. Il s'agit ici de travailler, c'est des nouveaux enjeux d'apprentissage, hein, c'est ce dont je parlais un peu plus haut autour de ces nouveaux enjeux. Il s'agit d'analyser le discours de l'image. Voilà encore quelque chose qui montre le niveau des exigences contemporaines. Hein. Déconstruire, comprendre l'image, bon bref. Donc le travail porte sur l'affiche du film d'animation Kirikou. Kirikou et la sorcière. Adja, elle regarde ça vraiment d'un air mais dépité. Elle dit, oui, les affiches de films, ah oui, encore, etc. Donc j'essaie d'attirer son attention sur le travail qui est demandé. Je lui dis, oui, tu vois, on pose des questions sur l'affiche, etc. Et elle m'interrompt, elle dit, là, si t'as pas regardé le film, qu'est-ce que tu vas faire ? Là, tu es obligé d'aller regarder le film de Kirikou pour répondre aux questions. Je lui dis, ah oui, tu penses ? Ben oui, moi, je trouve que c'est inutile. Il y a d'autres choses à faire à l'école que des choses comme ça. Kirikou, les bandes dessinées, les machins, etc. Alors, elle est vraiment une grande prescriptrice, prescriptrice de travail en plus et de travail notamment compensatoire. Et ce qu'elle explique, c'est que quand il y a des sorties qui sont organisées comme ça, elle dit « moi, mes enfants, ils n'y vont pas ». Et je les mets à la maison, et je leur donne du travail, et ils remplissent des cahiers bien serrés. Et c'est ce qu'elle, c'est son expression, et ce qui renvoie à du véritable travail. Alors, toutes ces évolutions que je viens de dresser un peu rapidement, donc elles sont mal comprises par les parents, mais qui les décrivent de manière souvent fine. Enfin, ils y sont très sensibles, mais tout en n'en comprenant pas nécessairement les enjeux, hein, parce qu'il faut dire que ça renvoie à des choses particulièrement complexes. Et les parents s'efforcent donc, je vous dis, de donner un sens à ces évolutions, et en développant souvent des analyses en termes, je l'ai dit tout à l'heure, de démission de l'école, quoi. Hein, cette école qui aurait renoncé aux exigences, aux véritables exigences. Et beaucoup de pratiques de travail en plus visent à renouer avec ces anciennes pédagogies. Voilà, alors, là je vais aller beaucoup plus vite, mais pour donner quelques autres éléments sur les dissonances qui peuvent s'observer entre logique scolaire et logique familiale. On peut dire aussi que ces prescriptions dissonantes, elles résultent parfois de la mobilisation, non pas d'une mauvaise interprétation des codes scolaires ou d'une interprétation erronée des codes scolaires, mais de la mobilisation d'un certain nombre de savoirs théoriques, empiriques, un certain nombre de représentations, de vulgates, d'opinions, de croyances que les parents porte sur ce que c'est que l'apprentissage, sur ce que peuvent être les difficultés d'apprentissage, ce qui peut aider leurs enfants, etc. Je donne un exemple pour... alors, soucieux de maximiser les chances de réussite, hein, certains parents mobilisent, en fait, remobilisent des doxas, des doxas sur les vertus scolaires, par exemple... de la lecture, et ils vont convertir ces doxas en charge effective, chargeant la lecture d'enjeux surnuméraires qui vont venir faire directement concurrence aux activités de compréhension. Alors j'explique parce que je crois que ce que je viens de dire est très abstrait, mais voilà, les parents ont bien intégré l'idée que la lecture sert à l'orthographe. C'est ce que les enseignants d'ailleurs disent souvent, hein, voilà, quand on lit, on apprend à écrire, hein. Donc certains parents convertissent ce qu'on peut appeler une espèce de vulgate comme ça en prescription effective. C'est-à-dire, quand tu lis, tu dois faire un travail de mémorisation orthographique des mots. Donc ça veut dire être attentif à la double consonne, etc. Alors ça ne veut pas dire que leurs enfants mettent en œuvre ces pratiques dans leur lecture, mais ça veut dire en tout cas qu'ils ont... que certains d'entre eux considèrent que comprendre et photographier les mots sont deux activités qu'on devrait conduire de manière concomitante, ce qui est quand même extrêmement difficile de se concentrer sur le sens et à la fois sur les doubles consonnes. Alors, une des mères de l'enfant, enfin c'est une tante, mais enfin on peut la considérer quand même mère, comme une mère parce que sa nièce vit avec elle depuis de nombreuses années, une des enquêtées met en œuvre cette pratique, mais de manière vraiment, enfin, sous une forme très contraignante. Je vous lis cet extrait d'observation, hein. Donc Priscilla, la nièce, enfin, lit un texte, donc elle a des grosses difficultés de compréhension, c'est une élève en grande difficulté que les enseignants veulent orienter en SECPA, la tante s'y oppose parce qu'elle dit que sa nièce ne fait pas assez d'efforts, et puis elle pense aussi que l'école, bon, a sa part de responsabilité là-dedans. Donc elle l'a fait lire très 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 souvent. Et donc j'assiste à cette lecture qui est faite dans le manuel de 5e, manuel unique. Donc la gamine commence à lire, donc « Vol de bijoux à l'hôtel Métropole ». Augustine, donc, elle l'interrompt. « D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le « ça ne va pas ». Donc, Priscilla reprend. « Métropole ». Et donc, elle oblige sa nièce à lire à voix haute, de manière... elle lui recommande, elle lui impose la lecture à voix haute de toute manière. Et en plus de ça, elle l'oblige à marquer les « muets ». Pourquoi ? Parce que, je vous lis un petit extrait. Donc, ça fait « L'hôtel fait le ménage le matin en présence de Célestine et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici comme eux. » Et donc, quand la nièce refait une erreur, elle lui dit « Oui, mais attention, parce que quand on est en orthographe, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse. Mais toi, tu sais déjà que c'est la coiffeuse. Tu comprends ? Allez, on y va. » Et donc, elle lui fait lire tout le sexe comme ça. J'ai compté uniquement pour la question du « elle l'interrompt une vingtaine de fois. Hein. Donc, évidemment... Et après, elle lui fait faire des questions de compréhension, donc attestant de l'idée que... Enfin, confirmant bien qu'on peut faire ça et comprendre un texte, etc. Donc, voilà un exemple de mise en œuvre extrêmement parasitante qui renvoie ici à une espèce de surenchère de préoccupations scolaires. Hein. On va lire, mais en même temps travailler la dictée. Et comme ça, tu vas t'en sortir et t'iras pas, on sait que pas. Une partie aussi des dissonances que j'ai pu pointer aussi dans l'enquête résulte davantage d'une attention à ce qu'on pourrait porter à des enjeux connexes aux enjeux cognitifs. Les parents ne sont pas des sujets génériques, mais des sujets sociaux, et de surcroît, ils ne sont pas des professionnels, même si par certains aspects, ils tendent à le devenir, quasiment. Hein. Donc, ils s'inscrivent dans une logique d'action fondamentalement plurielle, qui fait s'articuler, pas toujours de manière cohérente, différentes dimensions d'ordre cognitif, affectif, moral, éducatif, pragmatique, identitaire. Donc parfois, il arrive que ces enjeux connexes peuvent prendre le pas sur les enjeux cognitifs et contribuer à inscrire les enfants dans des logiques qui ne sont pas nécessairement les bonnes logiques d'apprentissage. Alors, par exemple, certains parents qui sont bien conscients que pour lire un texte, il ne suffit pas de comprendre tous les mots, et qu'il faut mettre en œuvre des activités intellectuelles beaucoup plus complexes qu'une simple compréhension lexicale de chaque mot. Face aux difficultés que leur enfant exprime, par exemple pour lire et comprendre les textes, vont ne jamais les orienter vers un travail qui pourrait consister à sauter des mots qu'ils ne comprennent pas ou à tenter de les deviner à partir du contexte, mais vont par exemple toujours les renvoyer à l'usage du dictionnaire. Alors que quand on les interroge, en fait, ils sont bien conscients que la lecture engage des activités intellectuelles beaucoup plus complexes. Là, on voit bien que les enjeux moraux, hein, qui sont liés au suivi du travail, etc., l'emportent, et le recours au dictionnaire est présenté vraiment comme ce qui permet absolument de comprendre les textes, et si tu comprends pas, c'est de ta faute, c'est parce que tu cherches pas, et ça s'arrête là, et si tu ne réussis pas, c'est parce qu'au fond, tu ne t'en donnes pas les moyens. Donc, c'était un petit exemple. Un dernier élément auquel je tiens particulièrement, c'est que certaines dissonances que j'ai pu observer ou reconstruire ne sont pas le fait nécessairement des familles, mais proviennent d'une forme d'adaptation réactive à ce que j'appelle un peu le faible degré d'efficacité de l'autonomie, au faible degré d'efficacité de l'institution scolaire. Alors, en gros, pour le dire simplement, une des difficultés auxquelles se confrontent les parents, c'est que bien souvent, leurs enfants rentrent de l'école sans avoir pu construire en amont au sein de la classe une véritable maîtrise des savoirs et des notions en jeu. Je tiens à dire, pour avoir observé, on pourra peut-être en reparler dans l'échange, pour avoir observé un dispositif d'aide aux devoirs en banlieue parisienne, exclusivement encadré par des enseignants du primaire, que les parents ne sont pas les seuls à avoir des difficultés à accompagner les devoirs. Hein. On a vu des enseignants avoir beaucoup de mal, malgré un dispositif qui est bien organisé, où il y a un fort taux d'encadrement, où les élèves sont censés être regroupés par niveau, etc. Bon, on a vu des élèves, des enseignants qui ont beaucoup de mal dans une salle d'études où il y a 15 élèves qui appartiennent à 3 ou 4 groupes différents, et qui n'ont pas compris en classe et qui n'ont pas les moyens de travailler dans une véritable autonomie. Alors, par contre, ils travaillent très très bien dans une fausse autonomie, hein, qui consiste à se jeter sur une tâche et puis à travailler complètement en dehors des attendus scolaires. Donc, on peut parler d'une fausse autonomie, mais des élèves qui n'ont pas toujours la capacité de travailler dans une véritable autonomie. Et il n'est pas évident, en une heure, avec un petit groupe éclaté d'élèves qui appartiennent à des classes différentes, qu'un enseignant même chevronné et armé d'une excellente bonne volonté, enfin d'une très bonne volonté, il n'est pas certain qu'il soit à même de parvenir à construire, reconstruire ce que l'enseignant n'a pas pu faire au sein de la classe. Ça, c'est quelque chose... Pardon ?
Pas ça, mais tu peux
voir. Oui, mais justement, il y a l'aide au devoir telle qu'elle se présente, hein, comme un espace de consolidation, et puis il y a l'aide de prolongement, d'approfondissement, et puis il y a l'aide au devoir telle qu'elle est souvent effectivement mise en œuvre au sein de ces établissements des quartiers populaires, une aide au devoir qui tend à être annexée par la classe et qui reçoit la charge de ce qui n'a pas pu se faire en classe. Hein. Donc c'est pour ça que dans le rapport qu'on a remis à la ville qui a commandé le rapport, on a parlé, enfin le titre, bon... C'était l'aide au devoir dispositif de lutte contre l'échec scolaire ou caisse de résonance, voire d'amplification des difficultés non résolues au sein de la classe. Hein ? Donc, j'ai fait un petit détour, mais on pourra y revenir, si vous voulez, dans l'échange, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que sont les devoirs aujourd'hui. Les parents ne sont pas les seuls à... Voilà. Sauf que, bien souvent, notamment à l'entrée au collège, etc., ils n'ont pas nécessairement le stock de ressources disponibles nécessaires pour pouvoir refaire, réexpliquer, etc. Donc une partie des pratiques qui dissonantes que les parents mettent en œuvre peut s'expliquer par le fait que, confrontés à des tâches que leurs enfants ne savent pas faire, qu'ils ne savent pas accompagner, les parents mettent en œuvre une forme de reconfiguration des tâches. Telle leçon qui était donnée à comprendre, mais que l'enfant ne comprend pas et que le parent n'est pas en mesure d'expliquer, peut devenir par exemple une leçon qui devient à apprendre par cœur. Quand ces parents reçoivent ce type de tâches à la maison, hein, ces tâches sont susceptibles de déstabiliser. Alors ça renvoie à des enjeux de parce que pour comprendre cette reconfiguration, il faut le dire, ça renvoie à une possible disqualification des parents. Disqualification des parents devant l'enfant, donc le parent ne sait pas faire, disqualification, voilà, sentiment d'impuissance, impuissance à aider l'enfant. Disqualification aux yeux de l'enseignant, ben, on ne va pas pouvoir envoyer aussi en classe, je vous ai dit tout à l'heure, ce rôle aussi des devoirs comme un miroir de la mobilisation scolaire, on ne va pas pouvoir se distinguer des autres parents si on n'arrive pas à aider. Et puis, il y a aussi quelque chose de très fort, c'est que ce type de tâches viennent contrarier les discours que les parents tiennent à longueur de journée à leurs enfants et qui peuvent se résumer comme ça, travaille et tu réussiras, si tu veux tu peux, si tu n'y arrives pas c'est parce que tu ne le veux pas. Bon, bah, quand le parent n'arrive pas lui-même à expliquer à un enfant de 5e ou de 6e la leçon de français, effectivement ces discours-là en prennent un coup et il y a quand même une déstabilisation relativement profonde d'un certain nombre d'équilibres éducatifs familiaux, hein, parce que c'est vraiment ces discours méritocratiques sont vraiment très forts. Donc la reconfiguration de la tâche en bon, ben, tu vas déjà l'apprendre par cœur, elle permet ben, de remobiliser le parent dans son rôle d'éducateur, de le renvoyer, au moins on renvoie à l'école, la leçon elle a été apprise par cœur, donc on renvoie un signal positif, et ça permet aussi de restaurer la légitimité de ces discours méritocratiques. J'aurais pu vous montrer donc un exemple avec un exercice de français donné par cette tante, reconfiguré par cette tante, et puis elle dit oui, je vais encore reprendre cette leçon, et puis elle va la prendre, parce que si elle fait pas ça, elle va jamais y arriver dans la vie, etc. Donc on voit ce rétablissement de ce discours-là. Donc ça, c'est important de le souligner. Il faut se garder trop vite de conclure au malentendu, même si ces pratiques familiales, elles sont aussi tramées de malentendus par certains aspects, notamment sur les codes scolaires dont j'ai parlé. Il faut se garder de conclure trop vite à la thèse du malentendu et de ne pas attribuer aux familles ce qui relève d'un fonctionnement ou d'un dysfonctionnement aussi de l'institution en matière de prescription. Voilà, je conclue juste en disant que donc cette recherche, elle contribue à déconstruire, elle apporte sa part, parce que d'autres recherches l'ont fait avant, elle contribue donc à déconstruire le mythe de la démission éducative des familles populaires. Elle donne à voir quelque chose que les enseignants, une espèce de continent caché, parce que les enseignants n'ont pas toujours connaissance, conscience de ces activités. Je crois que quand je présente en général les résultats de cette enquête, souvent on me dit mais vous êtes tombé sur un certain type de famille, mais c'est pas les bonnes familles, mais c'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en disant non, elles sont relativement représentatives des familles populaires. Alors, avec une enquête ethnographique, on ne peut pas le prouver scientifiquement. On peut c'est pour ça aussi que je fais référence aux travaux de l'INSEE, qui renvoie ici à du quantitatif. On a plus de force de conviction en général quand on mobilise des travaux quantitatifs. Mais c'est vrai qu'il y a cette résistance à voilà. Et je l'ai pas qu'observé qu'en faisant des restitutions. Aux enseignants, j'ai été présentée par exemple mon travail au Sénat au mois d'octobre, et les sénateurs m'ont dit oui, certains sénateurs m'ont dit oui, mais non, mais moi j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu de famille RMiste faire ça. Vos familles, vous êtes sur une base fragile, mademoiselle. De toute façon, avec 20 familles, vous pouvez pas dire grand chose. Donc, alors j'ai dû faire un travail aussi, mais je crois qu'il faut toujours le faire pédagogie aussi pour expliquer ce que c'est que l'enquête ethnographique, mais j'ai aussi souligné que ces résultats étaient étayés par les travaux de l'INSEE, hein. Et de toute façon, on se demande bien pourquoi les familles populaires n'investiraient pas cette question du suivi des devoirs, puisqu'elles ont compris, elles ont intégré l'idée que pour que leurs enfants aient une chance d'accéder, de s'affranchir des métiers d'exécution, des contraintes dans lesquelles elles vivent, elles, eh bien, il y a l'école, il faut l'école, l'école est incontournable, donc elles l'ont intégrée. Bon, donc voilà, ce travail contribue à déconstruire ce mythe-là, en tout cas je l'espère, mais aussi il contribue à déconstruire un mythe qui est pour ainsi dire l'envers du premier, et qui est que... et qui renvoie au fait que la mobilisation parentale, elle est souvent perçue, notamment par rapport à un contexte qui, lui, est perçu comme complètement déficitaire, anomique, etc. Donc on entend souvent que cette mobilisation, elle est forcément... il faut absolument la souhaiter, il faut amener les parents à plus s'impliquer, etc. Oui, enfin, ce travail ne le contredit pas, mais elle nuance un peu en montrant que les parents peuvent s'impliquer, mais pas nécessairement toujours dans les logiques attendues. Alors, il ne s'agit pas, et ça c'est important de le dire, le travail n'amène pas à conclure que les parents produisent l'échec scolaire. Surtout pas. On ne peut pas savoir, enfin moi je n'ai pas essayé de le montrer, mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à démontrer quel est l'effet de ces pratiques. On peut penser, c'est vrai, que sur certains exemples, que prononcer le muet à chaque fois qu'on lit, et notamment parce que cette élève le fait en classe quand elle lit, parce qu'elle sait pas bien si c'est ça qui est attendu par l'école ou pas, mais à défaut elle fait quand même ce que sa tante lui conseille. Bon, on peut imaginer qu'évidemment c'est pas des pratiques très favorisantes, hein. Mais il s'agit pas du tout de conclure, la difficulté scolaire, elle se construit dans une configuration complexe qui lie école et famille, et on peut pas le réduire à ces pratiques. Il s'agit juste de dire que il semble urgent, important, enfin, que l'école renoue avec une certaine forme d'efficacité, peut-être, d'efficacité démocratisante, pour que peut-être ces familles s'inscrivent. Bon, mais il y a aussi l'augmentation de la compétition scolaire, hein. De toute façon, elles seront toujours inscrites dans cette préoccupation scolaire, mais il y a quand même ce rapport de défiance qui s'installe et qui est quand même relativement préoccupant. Et on peut penser que pour que ces familles desserrent un petit peu l'étau, parce que certains enfants, et notamment les élèves en difficulté, qui sont les premières cibles des parents, parce qu'il faut les sortir de là, hein, il y a parfois même double peine pour eux, à la fois à l'école, mais à la fois à la maison, tout recommence, et la confrontation avec les difficultés, etc. On peut penser que l'école, pour que ces familles desserrent l'étau, a intérêt à renouer avec une certaine forme d'efficacité, à permettre notamment en matière de devoirs aux enfants de rentrer, en tout cas, avec des tâches qu'ils sont capables de faire, pour ne prendre que cet exemple.